Bonjour à tous, c'est encore Patricia dans la matinale de Fabien sur Osmose Radio, www.osmose-radio.fr. Et ce matin, j'ai la grande joie d'accueillir Sylvie et John Brun.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien après ce long week-end de Pentecôte ?
Oui, oui, ça va.
Enfin, oui, oui, tout va bien. On a pris un peu la pluie, mais ça va.
Ah, il y avait de la pluie ?
Oui, à Bédouin, oui. Il y a toujours de la pluie.
À Bédouin, oui, il y avait bien. De la pluie. Donc, on va parler ce matin, en effet, de Bédouin, et en particulier de la roseraie de Géranton, dont Sylvie est la créatrice. Donc, la roseraie de Géranton se trouve route de Flassan à Bédouin. Et c'est un jardin qui est ouvert au printemps, quand les roses sont en fleurs, donc il est ouvert en ce moment. Et également une pépinière de rosiers anciens qui est ouverte de septembre à juin, si je ne me trompe.
Oui, c'est ça. Donc à la fois la pépinière dans laquelle, enfin, où je multiplie les roses anciennes et je les propose à la vente. Et ensuite le jardin qui est constitué de toute ma collection de rosiers anciens et qui sont les pieds mères pour ma pépinière. Donc j'ai bâti ce jardin avec tous ces pieds mères et je les ai associés à d'autres plantes méditerranéennes pour avoir non pas des rosiers en ligne sur lesquels je viens chercher les boutures dans un champ, mais un vrai jardin d'agrément.
Mais comment tu as créé ces rosiers anciens ? D'où ça vient ces...
Alors les rosiers anciens, ce sont des roses qui sont des vieilles variétés de rosiers et qui datent d'avant 1867. Donc dans l'histoire des roses, toutes nos roses, elles viennent des églantiers sauvages qu'on connaît tous dans la campagne. Mais ces églantiers sont différents dans le monde entier. Et en fait, la sélection de ces rosiers-là, au fur et à mesure, et les mutations naturelles ont fait qu'ils ont eu plus de pétales, des choses comme ça. Et les anciens les ont conservés, semés, sélectionnés. Et c'est comme ça que nos roses de jardin sont arrivées. Et les premières roses des jardins, c'est ce qu'on appelle les roses anciennes. À partir de, on va dire, début 1900, on bascule sur les roses modernes qui ont beaucoup plus de croisements. Et donc, on abandonne les roses anciennes. L'avantage des roses anciennes, c'est qu'elles ont beaucoup de résistance parce qu'elles sont peu croisées.
D'accord. Et alors, d'où est venue cette idée de rosier ancien ? J'ai vu sur ton site que tu avais toujours aimé gratter la terre.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, j'ai toujours eu des petits jardins potagers dès que j'ai eu la possibilité d'avoir un petit bout de jardin. Là, c'est la rencontre avec le lieu qui a déterminé le projet sur les roses anciennes. J'ai rencontré ce lieu qui est dans le quartier Géranton. C'est une parcelle qui fait 1,6 hectare à peu près. Et dans cette parcelle, qui était en friche depuis près de 50 ans, il y avait des dizaines et des dizaines de rosiers anciens, pas de rosiers anciens, mais d'églantiers sauvages, voilà, qui étaient là depuis très longtemps, donc très grands. Quand j'ai visité le lieu, c'était le printemps, ils étaient tous en fleurs, et dans l'air, on avait le parfum des fleurs, donc ça, c'était assez magique. Et c'est ça qui a guidé le projet. Je me suis dit que j'allais mettre ici des roses. Et vu la qualité de mon terrain, parce que c'est un peu un challenge d'avoir une roseraie comme ça au pied du Mont Ventoux, je suis sur un terrain qui est très léger, plein de cailloux, avec un sous-sol qui est assez ingrat. Eh bien, je suis partie sur les roses anciennes, justement, grâce à leur résistance.
D'accord. Et ton jardin a une très 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 belle vue sur le Mont Ventoux.
Oui, on a un jardin c'est un jardin en deux parties, hein, une partie basse et puis une petite partie sur une restanque. Et depuis la partie basse, il y a une très belle vue sur le Mont Ventoux à différents endroits. C'est un jardin qui est organisé en massifs. On a 13 petits massifs et dont le thème tourne autour du nomadisme au jardin. Donc le nomadisme, ça correspond aux roses qui sont venues du monde entier pour avoir aujourd'hui toutes les roses qu'on connaît dans leur jardin. Et aussi, ça correspond aux plantes méditerranéennes qui accompagnent les roses, parce qu'elles viennent aussi de tout le bassin méditerranéen, mais aussi de toutes les zones du monde où on a des climats méditerranéens. Le nomadisme correspond à une particularité que j'ai dans ce jardin, qui est de cultiver aussi les plantes sauvages, dont les plantes qui poussent là toutes seules, eh bien, au lieu de systématiquement les enlever, je les garde à certains endroits où elles participent au spectacle du jardin. Et elles, ce sont vraiment des nomades, parce que chaque année, elles se ressèment là où elles ont envie. Et ensuite, chaque petit massif a un nom de peuple nomade.
Ça a dû être un travail immense de déchiffrage quand tu as découvert ce terrain. C'était en 2015, je crois, et tu as ouvert, vous avez ouvert quoi, 6-7 ans après ?
Oui, j'ai découvert le terrain en 2015, j'ai ouvert en 2022, donc il y a 7 ans de travail, il y a 3 ans de défrichage, parce que j'ai fait ce défrichage à la main, puisque sous les ronces, quand on dit défricher, il y avait beaucoup de ronces, et sous les ronces, j'ai trouvé les églantiers, des aubépines, des arbres, des frênes, des chênes. On a deux espèces de chênes au jardin, le chêne pédonculé, le chêne pubescent. Donc il y avait tous ces trésors-là sous les ronces.
Alors pour la roseraie, je peux y aller pour juste me promener dans le jardin. C'est l'accès est gratuit, comment
et une entrée ? Non, c'est un accès payant. Donc l'entrée au jardin est de 6 euros. Elle est valable toute la saison. Ça permet aux personnes qui habitent dans le coin de pouvoir revenir et profiter du jardin et de son évolution.
Donc je paye une fois 6 euros et je peux revenir autant de fois que je veux,
c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Parce que le jardin va évoluer. On est là sur les roses anciennes. On est en pleine floraison en ce moment, là, pendant encore toute une semaine, on va être sur plein de fleurs dans le jardin et le parfum des roses qui nous accueille à l'entrée. Et puis, ça va évoluer ensuite plus vers le jardin méditerranéen, puisque les roses vont passer. La particularité des roses anciennes, c'est qu'elles ont une seule floraison, très spectaculaire, mais une seule. C'est ce qui leur donne aussi leur résistance. Et puis ensuite, elles vont tirer leur révérence, et les lavandes, les romarins, enfin, les autres plantes méditerranéennes du jardin vont prendre le relais des floraisons, et on va avoir un jardin plus méditerranéen au fur et à mesure que le temps passe.
Il faut y aller maintenant, c'est superbe. Donc il y a le jardin d'un côté et la pépinière où je peux venir acheter mes rosiers anciens.
Oui, donc quand le jardin est ouvert, bien, il y a un petit espace pépinière juste à l'entrée avant d'accéder au jardin. Et donc on peut accéder à la pépinière sans payer l'entrée du jardin, évidemment. Et puis ensuite, quand je rouvre la pépinière en septembre, eh bien, le reste de l'année, la pépinière est sur un espace dédié.
Et combien ça coûte, par exemple, si je veux acheter un plant de rosier ?
Alors, on a des rosiers arbustes et des rosiers grimpants ou lianes. Donc, les rosiers arbustes sont à 17 euros et les rosiers grimpants ou les lianes à 22 euros.
D'accord, donc tout cela est fort accessible, non seulement l'entrée au jardin, mais l'achat de plantes. Ouais. Est-ce que, comme tu viens de l'éducation nationale, c'était ton ancien métier, on va dire, est-ce que tu as des activités pédagogiques envers les enfants ou les adultes, peu importe, dans le jardin ?
Oui, alors au jardin, il y a tous les week-ends, on a une visite commentée à 16h avec un thème différent le samedi et le dimanche. Le samedi, je donne tous mes secrets de culture de mes roses en terrain provençal. Et c'est parfois pas toujours facile de les faire venir, mais le jardin prouve qu'elles sont là, qu'elles sont bien installées et un tout petit peu soignées, elles se développent très bien. Et puis le dimanche, c'est ce que j'appelle les coulisses de la roseraie. Donc on va un petit peu voir aussi la partie production. Donc on va un peu derrière le jardin voir comment je m'occupe de mes plants de rosiers. Ça c'est sur quand je suis ouverte au grand public, mais le reste de l'année je reçois aussi des scolaires donc qui peuvent venir au jardin. Par exemple, je propose un petit escape game sur le thème de l'eau à la ferme.
Voilà. Il y a aussi des soirées, des événements, je crois, des contes, parce que c'est une autre corde à ton arc.
Oui, moi je suis aussi conteuse, donc je suis jardinière et conteuse. Et pendant que le jardin est ouvert, effectivement, il y a tout un petit programme qui peut se dérouler en soirée, parce que je suis ouverte uniquement au moment des floraisons. Donc ça fait à peu près un mois et demi d'ouverture. Et donc c'est un peu la fête et on a envie de faire plein de choses dans ce lieu quand il est tout en fleurs. Donc moi je propose des choses, je vais avoir samedi prochain une visite contée de la roseraie, donc je raconte des histoires dans lesquelles interviennent des roses et ensuite on balade dans le jardin et parfois même on va voir la rose qui est dans le conte, donc ça c'est assez magique. Et puis je travaille aussi avec d'autres artistes, donc par exemple le week-end prochain également je reçois Gabrielle Gonin qui va proposer un atelier d'écriture. Gabrielle est musicienne, elle est contrebassiste et chanteuse et elle nous propose le samedi écriture et musique et le dimanche écriture et images. Mais il y a aussi des visites nocturnes de la roseraie, plutôt tournées autour des sens, des stages de vannerie sauvage, des ateliers de broderie de paille, une exposition dans la yourte à l'entrée de la roseraie qui met à l'honneur deux artistes qui font du tressage et du modelage. Voilà, il y a vraiment de quoi découvrir ce lieu de plein de façons.
Oui, c'est un lieu très animé, très vivant, et puis c'est vraiment aussi cet îlot de verdure, là, c'est un vrai havre de paix, donc je vous conseille vraiment vraiment d'aller visiter. Route de Flassan à Bédouin, accès à pied, mais on peut se garer, il y a un petit parking pas loin, on doit marcher quoi, 5 minutes, 10 minutes
pour... Oui, il y a 3 minutes, il y a 350 mètres à pied, et puis voilà, et on arrive à la Roseraie.
On peut aussi te retrouver peut-être, Sylvie, ailleurs que sur, quand tu n'es pas dans, dans la Roseraie, sur les foires, les marchés peut-être ?
Oui, quand je ne suis pas à la Roseraie, sur les foires et les marchés aux fleurs de la région et même parfois un peu plus loin, il y a tout mon programme de déplacement qui est sur le site et donc on sait où je suis. Ça permet à des personnes qui me commandent des rosiers de pouvoir leur amener un peu plus près de chez eux.
Mmh. Merci pour toutes ces infos. Et puis à côté de toi, tu as ton mari, John. Mmh. Voilà, la petite main de la Roseraie.
C'est ça.
Donc, tu l'as évidemment beaucoup aidé à défricher
oui.
ce terrain. Mmh. Mais tu es là aussi pour nous parler de ton activité professionnelle qui est les petites caravanes de John.
C'est ça, oui.
L'upcycling, c'est ça, on dit comme
ça. Oui, on dit comme ça, oui. L'upcycling de caravanes. Et voilà, moi, mon travail consiste à restaurer en fait des caravanes des années 50-60. Mmh. Et en faire en fait effectivement ce qu'on appelle du upcycling ou du surcyclage, qui consiste en fait à transformer des objets qui ne sont plus utilisés en les valorisant et en leur donnant une valeur supérieure.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le recyclage par le haut.
Par le haut, mmh. C'est ça, ouais. Et donc voilà, c'est ce que je me tiens à faire sur ces caravanes, c'est-à-dire que voilà, je prends des caravanes des années 60 et je les restaure entièrement, c'est-à-dire que je les désosse complètement, j'enlève tout l'intérieur qui effectivement avec l'âge c'est quand même pas mal abîmé et je reprends toute la structure avant de réattaquer l'intérieur et refaire un nouvel aménagement. Donc je fais ça en fait en fonction des demandes des gens, c'est uniquement sur commande, mais ça me permet voilà de partir de l'idée d'un objet en fait qui à la base est un objet qui normalement en fait on devrait le jeter, c'est-à-dire que les caravanes qui sont la plupart du temps abandonnées ou oubliées dans une grange et tout, et ben souvent les gens savent pas quoi en faire et puis ils s'en débarrassent et puis ils les jettent
sur place, ouais, souvent.
Et ça pourrit sur place, et en fait moi je trouvais ça dommage en fait de perdre une partie un peu de d'un patrimoine quand même, même si c'est un peu galvaudé comme nom, mais c'est vrai que c'est tout un pan de l'histoire de
tous vécu des vacances en caravane,
voilà, les vacances en caravane, tout ça ça toujours, il y a un imaginaire derrière quand même qui reste et tout, et donc ça me paraissait important qu'on puisse quand même continuer à faire perdurer cette idée-là et en fait d'essayer de la mettre justement au goût du jour. Et donc voilà, moi ces caravanes, eh ben je les restaure entièrement et après je les réaménage pour en faire soit des petits bureaux, des chambres d'amis, des caravanes bars, des saunas, des voilà, j'essaie un peu de diversifier après les possibilités avec ces caravanes, et toujours en fonction en fait des besoins, des envies des gens. Et donc l'idée c'est que les gens, plutôt que de faire des extensions dans leur maison ou d'essayer de s'agrandir et tout, en fait on peut aussi imaginer si on doit recevoir des amis ou quoi et se dire que on n'a pas assez de place chez soi, et si on a un petit bout de jardin, hop, on peut poser une petite caravane avec tout le confort à l'intérieur, bien isolé, avec un style tout personnel, avoir voilà cette petite pièce en plus qui permet au fond du jardin de pouvoir s'évader sans avoir besoin forcément de se déplacer de partir très loin.
Et John, d'où est venue cette idée de recycler les caravanes ? Parce que quand je regarde ton parcours, donc tu viens toi aussi de l'éducation nationale, et puis ensuite tu as eu ton association. Est-ce que tu peux nous parler un peu ?
Oui, en fait, quand j'étais... déjà à la base, j'étais enseignant, j'étais prof de technologie au collège.
Donc tu faisais déjà faire des choses.
Déjà à l'époque, avec mes élèves, en fait, je les accompagnais sur des projets un peu écologiques où je leur faisais faire des cabanes dans les arbres.
Oui, donc tu dois être toujours cette petite fibre.
Avec une fibre naturelle et écologique toujours là. Et à un moment, j'ai créé une association qui faisait de l'accompagnement pour les autoconstructeurs dans l'habitat écologique et de façon plus précise sur les constructions de maisons en paille. Et donc,
et
j'ai
contrairement
des...
aux trois petits cochons,
c'est ça, ouais,
les
c'est...
maisons de paille de John, les maisons de paille en général, ouais, tiennent très bien.
Oui, ouais, c'est des maisons voilà, qui sont très performantes et très durables, contrairement à ce qu'on pense, parce que par exemple, la première maison en paille en France, elle date de 1921, elle a fêté ses 100 ans il y a 3 ans. Et elle est toujours là et toujours en bon état. C'est ce qui n'est pas forcément le cas de certaines constructions en béton qui tiennent pas autant. Mais donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai accompagné les gens pour que du coup, ils essayent un peu d'imaginer qu'on pouvait construire autrement, vivre autrement dans des habitats beaucoup plus sains. Et voilà, quelques soucis de santé ont fait que du coup, il a fallu que je change un peu l'orientation. Et l'habitat a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et donc, j'ai orienté un peu plus sur des habitats plus petits. Et donc, ça a été tiny house, mobile home, roulotte.
D'ailleurs, sur le site de la roseraie, il y a une yourte. C'est toi qui l'as...
Non, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais en fait, on l'a installée. Oui. Là, c'était sur la thématique du nomadisme qui est le thème de la roseraie. Donc il y a cette yourte et puis il y a aussi deux de mes caravanes aussi qui participent à la scénographie du lieu.
D'accord.
Mais voilà, donc je me suis orienté moi sur voilà, les caravanes et puis les fourgons aménagés aussi pour les gens qui souhaitaient vivre à l'année, notamment dans des fourgons.
Et en donc, général, c'est les gens qui te contactent pour retaper une vieille caravane
Oui. Oui, je fais que du sur commande en fait. C'est uniquement et les caravanes que je fais en fait sont à chaque fois des modèles sur mesure. Les gens veulent une caravane particulière avec un style particulier et donc c'est moi la plupart du temps qui trouve les caravanes parce que c'est vrai que c'est pas évident voilà de trouver des caravanes sur tous les modèles sur lesquels je travaille. Moi c'est voilà pas des modèles des années 80 où on a eu vraiment là un essor des caravanes mais avec des modèles qui étaient pas très solides on va dire alors que dans les années 50-60 c'est des époques où en fait ils savaient faire des choses qui étaient construites pour durer. Et donc j'arrive à trouver des caravanes donc, qui ont réussi à passer le temps jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ont tenu une soixantaine d'années. Et moi j'ai à cœur de me dire que bah, une fois qu'elles sont passées entre mes mains, elles pourraient encore continuer si on les entretient bien.
Oui, tu leur donnes une belle âme.
Enfin, ouais, et puis je dis que voilà, elles puissent continuer à faire leur office pendant encore de nombreuses années. Donc
on peut voir sur ton site Instagram tout le processus en fait hein.
Oui, j'essaye en fait voilà un peu de montrer toutes les étapes en fait de la
désossement hein,
voilà c'est ça ensuite, la déconstruction avant la reconstruction, c'est-à-dire que je les désosse entièrement. Et c'est un peu comme pour les voitures anciennes, c'est-à-dire les voitures de collection, tout ça, où en fait on fait des restaurations de A à Z. Ben là, pour ces caravanes, c'est pareil. Je me contente pas juste d'enlever les meubles, de donner un petit coup de peinture et puis replacer deux, trois éléments. Non, c'est vraiment une restauration complète. C'est-à-dire que voilà, toute l'ossature est reprise, toutes les étanchéités sont refaites et... Et quand elles ressortent de chez moi, c'est vrai qu'elles sont, elles sont comme neuves. Hein.
Et on peut voir quelque chose sur ton Instagram aussi, avec les photos, c'est toute cette attention prêtée aux détails. Moi, voilà, le robinet, les phares,
oui.
C'est magnifique.
Oui, c'est vrai que c'est des objets quand même sur lesquels on peut prêter une attention toute particulière sur le moindre petit détail, parce que ces espaces qui sont très petits, eh ben le regard en fait il peut être arrêté par n'importe quel petit détail. Et donc si on n'est pas minutieux et assez comment je pourrais dire assez maniaque sur pointilleux sur les détails, c'est vrai que voilà c'est important que du coup le regard ne puisse pas s'arrêter sur quelque chose qui pourrait coincer. Donc moi j'y prête une attention vraiment particulière et donc les petites poignées, les petits boutons de porte, etc. Toutes les finitions en fait sont importantes pour moi et j'aime bien aussi travailler avec des matériaux nobles. Donc c'est-à-dire que du coup j'ai voilà des plans de travail en bois massif, je travaille du châtaignier, le chêne Et donc tout ça, ça participe aussi à des ambiances qui sont toutes particulières quand même. On se retrouve après, les gens sont toujours surpris quand ils rentrent dans ces caravanes, parce qu'on s'attend toujours à ce côté un peu léger des meubles qui sont à l'intérieur et le côté un peu étroit. Alors qu'en fait, une fois réaménagé, quand on arrive à augmenter les espaces sans forcément pousser les murs, ne serait-ce qu'avec l'agencement, la disposition des éléments, on arrive à faire des choses, des choses qui donnent l'impression d'être dans des espaces très grands.
Et alors, combien ça coûte, par exemple, si j'ai une caravane au fond de mon jardin ou tu me trouves une vieille caravane?
Ou je trouve une caravane. En fait, ça dépend vraiment des projets. C'est très variable parce que soit on peut avoir une caravane où on a juste un petit coin bureau avec un petit lit ou une petite banquette qui se transforme, jusqu'à des caravanes qui ont des coins cuisine avec des petits blocs de sanitaire, etc., où on peut vraiment en faire des petites chambres d'hôtes, par exemple. Donc, c'est très variable au niveau des réalisations. Mais en gros, ça va commencer autour de 15-16 000 euros jusqu'à 25 000 euros, suivant les aménagements.
C'est accessible. Hein.
Mais après, par exemple, la dernière que j'ai faite, là, c'était pour une personne qui était sur Martigues, une dame qui souhaitait accueillir ses petits-enfants. Et qui hésitait en fait là à faire une extension chez elle justement en maçonnerie parce qu'elle n'avait pas suffisamment de place pour les accueillir. Et en fait, elle a découvert mes caravanes. Et c'est vrai que pour elle, ça a été le déclic de suite parce que ses petits-enfants se sont dit mais là, ils vont être comme des rois. Et en plus, ça permet non pas aussi d'artificialiser par exemple des espaces, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir la grosse artillerie avec des fondations en béton, des dalles, des murs, tout ça. Là, on a quelque chose de très léger qui est quand même assez performant en termes d'isolation parce que je réisole tout en matériaux naturels et tout. Et voilà, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est toujours plus... Enfin, c'est...
Qui est adapté à la personne.
Oui,
ouais,
et puis en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure là, sur le upcycling et sur le surcyclage, où en fait on a une démarche où on essaye aussi d'avoir des empreintes écologiques les plus faibles possibles. Et là, c'est quand même un peu le cas. C'est-à-dire que du coup, mes caravanes, en termes d'impact, elles sont quand même moins importantes que si on était parti sur une construction en agglo avec tout ce que ça comporte comme. Le fait que ça a quand même un impact environnemental qui est pas négligeable à chaque fois qu'on construit en dur. Donc c'est vrai que c'est un moyen en fait de pallier à ça je mets ma petite pierre à l'édifice avec ça.
En tout cas, c'est ce qui vous caractérise tous les deux, hein, votre engagement, en tout cas, de lier vos activités professionnelles avec votre engagement citoyen et dans l'environnement depuis tout le temps. Hein. Vous faisiez ça déjà avec vos élèves et vous continuez maintenant avec la roseraie de Géranton. Donc, je vous invite à découvrir. Elle est ouverte en ce moment, ça sent bon, c'est magnifique. À route de Flassan à Bédouin, il y aura toutes les informations sur le site. Il y a aussi un site internet, je vais essayer de retrouver l'info. https://rose-ancien-du-ventoux.com et vous découvrirez aussi dans la roseraie deux caravanes faites par John. Donc, et je vous invite aussi à découvrir son site internet, mais surtout son Instagram. Où là on a toutes les photos, tout le processus, ça. Donc ça s'appelle Les Petites Caravanes de John avec P.
Oui, il n'y a pas le premier, c'est le P apostrophe TITES, donc c'est PTITES pour Instagram.
Pas de E et un apostrophe, Les Petites Caravanes de John. Merci beaucoup John, merci beaucoup Sylvie d'être venue nous parler de votre beau travail à tous les deux et bonne continuation. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.